La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h et vous êtes au bon endroit pour écouter Le Monde Changer. Nous donnons la parole à des patronnes, des patrons, des hommes et des femmes qui se retroussent les manches et qui osent en ce moment. Et c'est ça, la France qui bouge. À mes côtés, Emmanuel Dutheil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à tous. Les jeunes font bouger la France dans cette rentrée si particulière. Nombreux débutent en ce moment un apprentissage ou une alternance, qu'ils soient peintres en bâtiment, spécialistes du numérique ou de la communication, tous misent sur ces formations. Les entreprises les plébiscitent aussi. Et pour que la machine ne se grippe pas trop, le gouvernement a rendu le recrutement d'un jeune quasi gratuit. La directrice générale des chambres de commerce et d'industrie de France est notre invitée jusqu'à 14h.
À la une en effet, Emmanuel, et si l'apprentissage était la clé pour relancer l'emploi? Partage d'expérience et mentorat, aider l'autre à trouver son propre chemin, c'est ce que fait l'association MoveJ. La déléguée générale de MoveJ sera parmi nous dans quelques minutes.
Tiens, si je vous dis Elisabeth, Anne-Sophie Pic, Yann Couvreur, mais aussi Laurent Mariotte, vous me dites on va bien manger. Moi, je leur dis non. Le point commun, c'est l'apprentissage et surtout l'école Ferrandi. Depuis 1920, Ferrandi propose des formations pour préparer au métier de la gastronomie. Ferrandi, une école qui se bouge et qui se porte bien. Saga du jour, 13h30.
Vous l'attendez chaque jour, le pitch devant notre grande patronne du jour. Entre les gestes barrières et la chaleur, ça tombe bien. Une entrepreneur se lance dans la location d'espaces extérieurs pour les particuliers et les entreprises. Va-t-elle vous convaincre? Réponse à 13h50.
Et en fin d'émission, votre séquence Demain au travail, donner du sens à son entreprise, c'est de plus en plus important pour les salariés. Neoxia en fait l'expérience en collaborant avec des associations.
Allez, bienvenue dans La France bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
La France bouge, ce sont toutes ces entreprises, petites et grandes, mais aussi des associations qui innovent, préparent ce monde de demain. Et ça tombe bien, ils le font tous dès aujourd'hui. Chaque jour, elles sont à la une sur Europe 1. Et donc aujourd'hui, un jeune, une solution. C'est le plan du gouvernement pour aider nos jeunes à trouver un emploi. L'enveloppe est énorme, hein, 6,5 milliards d'euros pour accompagner et former à ces jeunes. Mais on sait que l'argent est bien loin de tout faire et on parle de tout cela tout de suite.
Et avec vous, bonjour Sandrine Verly.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la directrice générale déléguée de la CCI France, la Chambre de commerce et d'industrie en France. On va parler apprentissage, mais tout d'abord, notre reporter Charlotte Barrican, elle-même en apprentissage à Europe 1, est allée promener son micro dans les rues de Paris avec cette question. Que pensez-vous de l'apprentissage? On écoute.
Qu'est-ce que vous pensez de l'apprentissage?
C'est une super opportunité pour la plupart des étudiants parce qu'on a rarement l'occasion de se confronter au métier qu'on a envie de faire et que du coup l'apprentissage va permettre de passer à la fois par une formation théorique et pratique.
Ça permet de voir un peu le terrain.
Je pense que c'est une bonne chose pour les jeunes de pouvoir se confronter au milieu de l'entreprise.
C'est une chose qui devrait être proposée à tous les étudiants.
Ayant eu la chance de faire de l'apprentissage, ça m'a appris beaucoup sur mon futur métier et aussi ça apprend à professionnaliser les jeunes.
Ça permet souvent de déboucher sur un emploi à terme.
Moi, c'est quelque chose que je regrette de ne pas avoir fait dans mon cursus universitaire.
Je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, où on a besoin de très vite trouver un travail et d'être assez autonome, c'est une chance.
C'est une très très bonne chose qui n'est pas assez développée et pas assez reconnue.
Sandrine Verly, vous êtes avec nous jusqu'à 14h. On vient d'écouter ces paroles de français sur l'apprentissage. C'est une chose qui n'est pas assez développée. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Écoutez, ça nous inspire qu'on a fait quand même pas mal d'efforts et que je pense qu'il faut les poursuivre. Et ça nous inspire surtout, en tout cas le début du micro-trottoir, c'est que les jeunes en sont conscients et sont conscients que c'est le meilleur moyen de trouver un emploi et surtout d'avoir confiance en soi et de trouver cette voie d'excellence. Alors nous, dans les chambres de commerce, nous gérons plus de 119 centres de formation des apprentis. On a 85 000 apprentis, donc c'est pour vous donner une idée de ce que l'on fait. Et on s'aperçoit, si vous voulez, que l'apprentissage, c'est à la fois un moyen pour les jeunes de trouver un job et de se mettre en situation. Et c'est un moyen pour les entrepreneurs de trouver les compétences dont ils ont besoin. Donc c'est vraiment la clé du succès pour tout le monde.
Ouais, jusqu'à 14h, on va rentrer dans le détail de tout cela. Si on a envie de faire cette émission, c'est qu'en cette rentrée, il y avait une grosse inquiétude que l'apprentissage s'arrête à cause de la crise. 750 000 jeunes environ vont arriver là sur le marché de l'emploi. Le gouvernement a donc décidé quelque chose de très simple. Donner de l'argent pour faire en sorte que ce soit quasiment gratuit, on va résumer, pour avoir un apprenti. Est-ce que ça marche?
Eh bien écoutez, oui. Oui, ça marche. On a eu des craintes, hein, je ne vous le cache pas, au mois de juin, parce qu'on s'était demandé avec la crise si ça allait redémarrer. Et clairement, oui, c'est incitatif. En vue de l'émission de ce matin, on a interrogé tous nos CFA hier pour savoir comment ça se passait dans les territoires. Et ça y est, ça démarre. Alors évidemment, c'est différent selon les territoires et selon les secteurs d'activité. On a des secteurs d'activité qui démarrent bien, d'autres qui sont un peu plus en retrait, comme le
hôtellerie. Ça démarre, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on est au même niveau qu'avant la crise, parce que l'apprentissage était à ce moment-là en plein boom, on est à peu près au niveau d'une année moyenne de ces dernières années.
On en est au début des inscriptions. Quand on dit que ça démarre, c'est qu'on voit que les inscriptions reviennent. On en est dans certains centres de formation, on est en train d'atteindre le quota de l'année dernière. Dans d'autres, on est en retrait. Donc on est vraiment, je dirais, plus optimiste qu'on ne pouvait l'être. Et c'est vraiment le moment ou jamais de faire cette émission, d'ailleurs.
Donc vous êtes plus optimiste, ça redémarre. Dans quel secteur ?
Alors,
les voyants sont au vert.
C'est plutôt les secteurs du service et les secteurs de l'immobilier où là, on est en train de faire le plein, par exemple. Et je vous aurai l'occasion d'en parler, je pense, avec les collègues de Ferrandi. C'est dans les secteurs de la restauration et donc tout ce qui est lié au niveau du tourisme où, évidemment, il y a encore des craintes parce que qui dit apprentissage dit emploi et tout est lié. Et c'est des secteurs qui, évidemment, vous le savez, ont beaucoup souffert.
Ce qui est très important dans ce que vous dites, c'est que ça veut dire aussi que les entreprises jouent le jeu. C'est que cette prime a permis aux entreprises de lever le doute en disant « je ne vais pas le faire parce que je ne sais pas si j'aurai de travail et si je pourrai le payer ». Là, le fait que ça ne coûte quasiment rien, ça a été un élément débloquant.
Oui, ça a débloqué. On a un chiffre qui est intéressant. On a un tiers des entrepreneurs là, qu'on a interviewé la semaine dernière qui nous disent « c'est la première fois que je vais recruter et je le fais parce qu'il y a ce dispositif ». C'est quand même encourageant.
C'est encourageant et il y a aussi des secteurs qui vont aussi un peu se débloquer, hein, notamment je pense au secteur de la santé, sur les métiers de la santé ou de l'hydrogène par exemple. Est-ce que ces formations sont prêtes dans ces secteurs-là ?
Alors les formations sont prêtes. Il faut savoir qu'en matière d'apprentissage, pratiquement tous les secteurs d'activité sont couverts, y compris les secteurs émergents comme ceux que vous citez. Donc, grâce à la loi, alors on n'en a pas encore parlé, mais on aura l'occasion de le faire, mais on a eu une année 2019 qui a été record en matière d'apprentissage. Et pourquoi ? Parce que la loi de 2018 a permis de libéraliser la création de CFA pour que justement on ait de l'agilité et qu'on puisse donc créer des CFA là où il y avait un besoin, comme ceux que vous venez de citer.
Eh bien, on va revenir justement sur tout cela dans un instant et notamment sur ces CFA d'entreprise que la loi avait permis d'ouvrir. Sandrine Verly, vous restez avec nous. Vous êtes la directrice générale de la CCI France.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et comme chaque jour, on est ensemble jusqu'à 14h avec vous et avec Elisabeth pour vous accompagner et pour tenter tous ensemble de faire bouger cette France. La France bouge, l'apprentissage qui poursuit, on l'entend, à son essor en France. Et c'est un message important puisque c'est un message positif. Les entreprises qui ont envie de former, on en parle avec Sandrine Verly, la directrice générale déléguée de la CCI France, qui est notre invitée jusqu'à 14h.
Et avec vous aussi, Bénédicte Sanson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la déléguée générale de MoveJ. Votre association a été créée en 2009 hein, par le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Votre mission, c'est d'accompagner le développement des jeunes entrepreneurs pour la croissance de leur entreprise. MoveJ, donc ça signifie mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs, tout est dit. Et ça repose sur le principe du mentorat. Comment ça marche exactement ? C'est-à-dire qu'on choisit une sorte de parrain ?
Alors oui, mais on appelle ça un mentor parce que c'est effectivement un petit peu différent. Et en fait, le principe, c'est que là où vous avez appris beaucoup de choses quand vous êtes en formation, en alternance, eh bien nous, on va leur apporter ce savoir-être. Et ce savoir-être, c'est un entrepreneur expérimenté qui va cheminer pendant un an aux côtés du jeune entrepreneur pour l'aider à ouvrir le champ des possibles par un effet miroir du questionnement et du partage d'expérience. Donc jamais aucun conseil, mais aider l'autre à trouver en lui sa petite musique.
C'est du coaching un peu, hein. On est dans le développement personnel presque.
Ça se rapproche du coaching, mais ça n'est pas du coaching dans le sens où le mentor n'a pas d'objectif à atteindre. Sa seule mission, c'est d'accompagner l'autre au fil de ses questionnements.
Est-ce qu'en ce moment, il y a beaucoup de jeunes qui justement veulent se lancer dans la création d'entreprises ?
Alors oui, il y a beaucoup de jeunes, il y en a de plus en plus. C'est quelque chose qui était très frémissant quand on s'est lancé en 2009. Aujourd'hui, aucun jeune n'a peur de dire, d'affirmer qu'il veut créer une entreprise. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que ces jeunes veulent créer une entreprise pour apporter du positif dans le monde.
Quand on dit jeune, j'imagine qu'Elisabeth et moi, on est trop vieux. C'est quoi un jeune pour vous ?
J'ai
jusqu'à quel
âge ?
Je ne me prononcerai pas pour Elisabeth. Un jeune, c'est 18 à 30 ans.
Ah, on est presque, on est à la limite.
en France. Au Québec, c'est 18-35. Donc, on peut...
Alors là, vous nous dites, ils sont de plus en plus attirés. Quels sont les domaines qui les font rêver? On n'est que dans la... Moi, j'ai le cliché de la tech, mais pas du tout. Ils sont attirés par quoi aujourd'hui? Alors, vers quoi ont-ils envie de créer leur entreprise?
Justement, la tech, c'est vraiment un cliché. Alors, il y a toujours... quasiment toujours de la tech dans leur projet de création d'entreprise, mais il n'y a aucun secteur d'activité qui échappe à cette envie des jeunes de créer une entreprise. Donc on en a beaucoup dans la restauration, on en a beaucoup dans l'écologie, mais on en a sur des sujets très difficiles autour de la pollution. Enfin, ils n'ont pas peur de s'attaquer à des choses qui paraissent extrêmement complexes, les migrants, etc. Enfin, vraiment des sujets où même on doute qu'il y a un business model. Ils arrivent à le trouver.
Elisabeth disait qu'il faut un mentor, mais vous avez aussi tout un programme. C'est 100 jours pour réussir à entreprendre. Ça paraît peu quand même.
Alors, le programme 100 jours pour entreprendre, c'est le programme en amont du mentorat, justement. Ouais. Vous êtes sur la dernière ligne droite où vous venez à peine de créer. Il y a encore un certain nombre de réglages techniques à faire par rapport à la création pure de l'entreprise. Et donc là, on vous propose une quinzaine de formations. Donc c'est lancé là en septembre. On vous propose une quinzaine de formations en ligne qui sont... Alors c'est de la formation action apportée à la fois par un expert et par un entrepreneur qui est mentor et qui apporte son expérience sur le sujet, justement pour tout de suite les plonger dans ce principe que ce qu'il y a dans les livres, c'est super de le connaître, mais après, il faut s'ajuster en permanence au quotidien. On l'a bien vu cet hiver.
Et vous les challengez un petit peu, vos jeunes? Vous mettez au point un concours pour élire celle ou celui qui va sortir du lot?
Alors effectivement, chaque année, on a un concours qui ramène de plus en plus de candidatures d'ailleurs. Et le jury a été reporté la semaine prochaine, là, lundi, mardi. C'est 350 jeunes qui ont postulé. Il y a 5 finalistes côté de ceux qui ont déjà créé, 20 de côté de ceux qui sont encore dans la création. Et puis on a, alors en général, c'est un jury de 70 personnes, réduit encore cette année pour toutes les raisons qu'on connaît, et qui va effectivement passer une journée complète à écouter ces jeunes, à leur poser des questions et à leur apporter des idées pour les aider à avancer.
Sandrine Verny, déléguée générale de la CCI France, quand vous entendez la création d'entreprise, il ne faut pas l'oublier aussi, l'apprentissage, c'est parfois la voie royale pour créer son entreprise derrière?
Bien sûr. Enfin, je veux dire, comment ne pas être mieux préparé pour créer une entreprise que d'avoir été au préalablement au sein même de l'entreprise et pour en connaître le métier? À la fois pour créer l'entreprise, mais il faut aussi le voir, puisque c'est un sujet qu'on va revoir de plus en plus, pour reprendre une entreprise. La transmission, c'est un vrai sujet en France, la transmission d'entreprise. Et c'est les meilleurs candidats pour reprendre, ce sont les jeunes qui ont été dans la boîte.
Bénédicte Sanson, MoveJ, c'est une association, ça existe depuis 10 ans. Allez, faites-nous rêver. Quelles ont été les plus belles réussites de vos jeunes entrepreneurs en 10 ans? Allez, deux, trois, un exemple.
Notre premier grand lauréat, Fago, les chaussures au départ, aujourd'hui accessoires de mode que tout le monde connaît. Easy Peasy, les lunettes, que tout le monde connaît aussi. Partout où je vais, partout dans le monde, je trouve
quand
des lunettes
Easy
Peasy.
Ouais,
mais adultes aussi, vous avez des montures exceptionnelles. Vous avez des bras en plus, déménagement sur mesure, que vous ayez besoin juste de deux bras pour votre machine à laver ou de l'intégralité du déménagement.
Vous nous faites rêver, vous êtes des défricheurs vous aussi.
Merci beaucoup en tout cas à Bénédicte Sanson, déléguée générale de MoveJ, le mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs, d'être venu, j'ai envie de vous le dire vous aussi avec ce sourire dans la voix, parce que c'est très agréable aujourd'hui d'avoir tant d'ondes positives dans ce studio d'Europe 1.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et nous sommes ravis d'être avec vous, Sandrine Verly, directrice générale déléguée de la CCI France. Depuis 13h, nous parlons apprentissage, former les jeunes pour accéder à des milliers d'offres d'emploi. L'apprentissage au cœur du plan de relance économie du gouvernement. La loi de 2019, Sandrine Verly, la loi Avenir Professionnel, a mis l'apprentissage au centre. C'est ce qui a permis que des entreprises aient leur propre centre de formation. Leur propre centre de formation d'apprentis. Est-ce que vous constatez que ça se multiplie en ce moment, ces centres-là?
Oui, clairement, il y a eu un avant et un après. Ça, c'est clair.
Cette loi de 2019.
Cette de la loi de 2019, donc elle est de 2018, mais elle a été mise en œuvre début 2019. On a atteint un record historique. On n'avait jamais eu ça en France. Alors, on n'arrêtait pas d'être en admiration béate devant ce qui se passait en Allemagne, mais on s'en rapproche. Et effectivement, le fait d'avoir libéralisé et de donner de l'agilité dans la création de CFA, y compris par les entreprises, ça nous a permis de faire rapprocher l'offre de la demande et de permettre de donner à des jeunes un un métier quasiment immédiatement.
Oui, puisque ça a permis d'être plus concret, de former véritablement dans les domaines où l'on a besoin. C'est ça que ça change, notamment ces centres de formation d'apprentis dans les entreprises.
Exactement, à la fois pour les secteurs émergents et les secteurs en tension. Mmh. On a une demande de la part des chefs d'entreprise et immédiatement, on met en place les CFA. J'avoue que la deuxième mesure de la loi, c'est quand même financier. On l'a vu pour ce qui se passe là pour le plan de relance, mais on a mis en place des primes incitatives aussi, puisque le coût peut être un frein pour un chef d'entreprise. Et donc, on a mis en place des mesures incitatives financières.
Tout à l'heure, on parlait très rapidement des formations. Un point sur lequel je voulais revenir, puisque dans le plan de relance, justement, le gouvernement veut former jusqu'à 300 000 jeunes, 200 000 de plus qui étaient prévus, sur des formations innovantes. Par exemple, dans la santé, comme citait tout à l'heure très bien Elisabeth, l'hydrogène également que citait Elisabeth. Mais est-ce qu'elles sont prêtes, ces formations? Est-ce que s'il y a des gens qui arrivent chez vous pour dire « Moi, je veux les faire, le gouvernement a mis les sous, c'est bon, on me l'a dit, le Premier ministre l'a dit ». Mais elles sont où ces formations?
Alors elles sont à la fois évidemment dans les CFA des chambres de commerce et aussi je vous rappelle qu'on a 1000 CFA en France et qui s'adaptent au fur et à mesure. On parlait du tech tout à l'heure. On a mis en place, nous, avec la chambre de commerce du Cantal, elle a mis en place un CFA sur le très haut débit. On a les Gobelins qui mettent en place des formations pour les webmasters. Donc vous voyez, c'est de la réactivité, je dirais pas quasiment en temps réel, mais pas loin.
Sandrine Verly, on va se le dire franchement, l'apprentissage pendant longtemps a eu une image désastreuse. Hein. C'était un peu honteux d'aller vers une filière d'apprenti. Aujourd'hui, peut-on être apprenti dans tous les métiers?
Alors, non seulement on peut être apprenti dans tous les métiers, et on peut être apprenti pour tous les niveaux.
Mais on ne le dit pas assez. C'est encore un petit peu honteux tout ça.
Je trouve que les choses, mais vous avez raison, et votre micro-trottoir le disait, on ne le dit pas assez, on ne le valorise pas. Ça a souvent été présenté comme une solution d'échec ou alors un circuit court pour certains étudiants. C'est une erreur. La meilleure preuve, c'est qu'on peut être apprenti en Bac plus 5. Okay, et c'est surtout un moyen, et de plus en plus en lien avec cette capacité des jeunes à créer leur entreprise, à passer entrepreneur, on le voyait avec Bénédicte Sanson tout à l'heure, eh bien, le fait d'être apprenti, c'est déjà être dans le métier et donc c'est véritablement une ouverture à la fois sur le monde du travail et à la fois une ouverture sur le métier de demain. Donc c'est une garantie d'emploi.
C'est ça peut-être le point le plus important que vous mettez en avant. C'est qu'aujourd'hui, quand on commence comme apprenti, parce que l'entreprise prend beaucoup moins de risques parce qu'elle ne paye pas, une fois de plus, c'est quand même un point important. En tout cas, ça ne lui coûte pas. Elle paye bien évidemment son apprenti. Mais on a plus de chances de rester dans l'entreprise derrière et on a une meilleure formation si jamais l'entreprise ne nous garde pas pour trouver un emploi à côté. C'est un point important, ces temps de crise?
C'est essentiel et surtout, c'est essentiel d'apprendre le métier sur le terrain. Rien de pire que de sortir de 5 ans d'études de bouquins. C'est meilleur. Enfin, je pense que notre collègue de Ferrandi pourra le dire. Pouvoir carrément tester et maîtriser et tenir. Il y a le savoir-faire, il y a le savoir-être. Il y a des choses qu'on apprend dans les bouquins.
Et grâce à l'apprentissage, on est quasiment sur du sur-mesure. Hein.
Exactement.
Sandrine Verly, vous connaissez l'école Ferrandi?
Bien sûr. D'abord, c'est une école du réseau des chambres de commerce. Donc, ça fait partie des fleurons dont nous sommes très fiers, qui a une belle histoire. Et je connais aussi les chefs qui ont pu y passer.
L'exemple même de l'apprentissage.
L'apprentissage réussi, encore une fois, du CAP au Bac plus 5.
Eh bien justement, on devrait tous vous embaucher parce que vous êtes les meilleurs pour faire les transitions. Notre invité, c'est donc maintenant Bruno Demonte. Bonjour.
Bonjour.
Merci vous aussi d'avoir accepté à l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur de l'école Ferrandi. Ferrandi, c'est une école du réseau de la Chambre de commerce, comme on vient de le dire. Oui. Elle est surnommée, il ne faut pas qu'on ait honte de le dire, le Harvard de la cuisine.
Exactement.
Française. Si on a eu envie de vous inviter, c'est que chaque jour, dans ces France Bouge, on met ces entreprises qui ont des années d'existence, mais qui bougent encore plus que jamais. Vous fêtez justement votre centenaire cette année. Cette école fait partie des lieux où on peut se former, se reconvertir. Elle est cosmopolite, on y trouve plein de nationalités, on y fait tous les métiers de bouche. Dites-nous comment ça a commencé, faites-nous rêver, ramenez-nous 100 ans en arrière.
Ah, je vais vous ramener 100 ans en arrière, j'y étais pas, je le précise tout de même. 1920, effectivement, la Chambre de commerce de Paris, Île-de-France, décide de créer une école de l'alimentation. Elle ne s'appelait pas Ferrandi à l'époque, c'était l'école de l'alimentation qui formait pour les chefs d'entreprise de la région des jeunes. C'était déjà on peut dire que c'est l'origine de l'apprentissage. C'était pas de l'apprentissage en termes juridiques, mais c'était déjà une alternance entre les ateliers-écoles, on appelait ça les ateliers-écoles, entre aller chez un patron travailler et venir à l'école sur tous les métiers de l'alimentation. Alors on faisait de la cuisine, mais on faisait aussi les métiers en amont de la cuisine. On formait des poissonniers, des bouchers, des étalagistes en épicerie. Enfin, c'était quelque chose d'assez novateur, comme l'est l'enseignement dans le réseau consulaire, novateur pour l'époque. Et puis évidemment, c'était il y a 100 ans. 1900, en 1920. L'école a beaucoup évolué depuis, s'est recentrée sur les métiers principalement de la gastronomie et du management hôtelier aussi, qu'il ne faut pas oublier. Et aujourd'hui, donc, ce sont les deux piliers que nous développons pour servir les industries hôtelières.
Alors, vous parlez d'évolution, elle a su évoluer. Hein. En 1957, il y a eu une bascule, elle s'est installée dans les 25 000 m² que vous occupez encore actuellement.
Oui, dans le 6e arrondissement.
Dans le 6e arrondissement.
Paris,
comment vous avez su vous évoluer et vous adapter à chacune des époques ? Parce que pendant la guerre, par exemple, vous continuez à travailler, à former des bouchers, des poissonniers, des boulangers.
Oui, il y avait encore. Alors évidemment, c'était perturbé.
Bien sûr.
C'était perturbé, ne serait-ce que pour les approvisionnements. Mais l'enseignement
n'a jamais failli.
Mais comme toute proportion gardée, évidemment, pendant cette période de confinement, nous avons assuré 95% des cours, y compris techniques, en distanciel. Alors, c'est par des biais pédagogiques.
C'est quoi, alors, assurer un cours technique ? C'est savoir découper un poisson
et puis c'est de travailler toujours les techniques culinaires. Alors, pour le management, c'est très différent, c'est plus simple, on va dire. Mais pour les matières plus techniques, pâtisserie, cuisine, c'est... Alors nous, on a pris un biais ludique pour aussi retenir ces jeunes et ne pas qu'ils décrochent. C'était de créer des challenges entre jeunes ou entre classes en leur donnant, voilà, vous avez un panier. Ils cuisinaient chez eux, ils se filmaient, parce qu'ils sont très rompus aux technologies quand même. Ils se filmaient et après, on évaluait avec des chefs de l'extérieur d'ailleurs qui venaient visionner et les sélectionner. Et 95% des cours ont été assurés.
Alors, je suis sûr que certains de nos auditeurs en voiture, à la maison, se disent: Ferrandi, mais quel chef, à qui ça me fait penser? Pas de chance, c'est le nom de la rue derrière chez vous, c'est ça?
Oui,
vous n'êtes pas allé chercher très loin
le nom
de l'école?
Je ne vais pas vous faire rêver sur ce sujet, oui. Non. Monsieur Ferrandi n'était pas un chef, c'était un conseiller municipal du 6e arrondissement au siècle dernier.
Plus sérieusement, aujourd'hui, on citait quelques noms en introduction tout à l'heure. Ouais. Anne-Sophie Pic, la seule femme chef triple étoilée au monde, et elle est française. Notre collègue Laurent Mariotte, qu'on retrouve chaque week-end sur l'antenne d'Europe 1,
qui a fait Ferrandi pour
lécher les babines. Qui sont aujourd'hui les futurs? Là, vous les décelez déjà aujourd'hui, les futurs Anne-Sophie Pic, les futurs Laurent Mariotte?
J'ai des selles dans l'école.
Oui. Vous avez...
Oui. Alors, on a la chance d'avoir énormément de candidatures pour notre établissement et de pouvoir ainsi recevoir, évaluer, tenter d'évaluer tous ces jeunes. Et on a la chance d'avoir des jeunes qui ont beaucoup de motivation et beaucoup de talent, qui est la principale caractéristique. Après, ça ne suffit pas le talent, il faut aussi beaucoup de travail. Et si on peut miser sur un jeune qui présente des aptitudes exceptionnelles, si derrière le travail n'y est pas, malheureusement, ça ne sera pas le grand chef de demain.
Ou un moins jeune, parce qu'il y a aussi beaucoup de reconversions.
Beaucoup de reconversions professionnelles.
Sandrine Verly, on l'entend, il y a eu énormément de grands noms qui sont sortis, qui sortent de cette école Ferrandi. On l'entend grâce à l'apprentissage. Par exemple, la cuisine n'est plus un choix par défaut. Il y a tout un apprentissage, tout un savoir-être, un savoir-faire qu'ils mettent en place. C'est aussi ça, l'apprentissage.
C'est complètement ça. Et on a parlé de la restauration, mais vous avez l'apprentissage qu'on ne sait pas dans des secteurs d'activité improbables et ceux de tous les jours. Alors évidemment, ceux de tous les jours, je pense à la banque, je pense à l'immobilier où ça marche très bien. On en a sur tout ce qui est donc la vente, le commerce, et aussi dans des secteurs un peu plus, j'en ai un là, attention, parce qu'aujourd'hui il est plus compliqué, comme la peinture sur carrosserie. On en a besoin et c'est là on a de plus en plus besoin.
Et vous continuez de créer comme ça des écoles comme celle de Ferrandi en fonction de tous les métiers qui se développent. Alors là, on est sur un métier d'excellence made in France, mais vous continuez de créer des écoles pour nos jeunes pour se développer comme ça?
Il y a des ouvertures, alors à défaut d'ouvrir des écoles, des ouvertures en tout cas de CFA et de sessions, effectivement, au sein de structures que nous avons déjà dans les chambres de commerce pour encore une fois s'adapter et être présent sur ces différents nouveaux métiers.
Eh bien, un grand merci Bruno Demonde d'être passé avec nous dans ce studio de La France Bouge. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'école Ferrandi. Sandrine Verring, la déléguée générale de la CCI France.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et avec Elisabeth, on est très heureux d'être avec vous sur Europe 1 dans cette France Bouge et avec notre invitée aujourd'hui, Sandrine Verril, la déléguée générale de CCI France. Les CCI, ce sont bien évidemment nos anciennes chambres de commerce et d'industrie. Pas anciennes, mais parce qu'on a plus l'habitude de dire CCI que chambres de commerce et d'industrie. Voilà, si je dis le mot en entier. Alors maintenant, vous mettez encore plus que jamais votre casquette de coach parce qu'on file vers nos trophées Europe 1. Chaque jour, nos entrepreneurs, des hommes, des femmes, osent et se lancent. On les écoute pitcher devant l'œil attentif et exigeant, attention à vous, de notre patronne du jour.
Et avec vous, Sabine Dizot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice de Louer Dehors. C'est un site qui donne la possibilité de louer des espaces extérieurs pour des particuliers ou pour des événements. Vous êtes située à Paris, mais à l'origine, vous avez grandi à Grenoble. Et c'est lorsque vous êtes arrivée à Paris que vous avez eu l'idée de louer dehors. Alors, de quoi s'agit-il ? Votre projet repose sur quel modèle économique ? On vous écoute, vous avez 1 minute 30.
Bonjour à tous, merci en tout cas de nous accueillir pour qu'on parle un peu de louer dehors. On va parler de jardin, de piscine, de barbecue, des choses encore très d'actualité aujourd'hui avec le beau temps qu'on a. Louer dehors, c'est un site internet de mise en relation pour louer des espaces extérieurs et événementiels. On s'adresse effectivement à des particuliers mais aussi aux professionnels en leur proposant une solution innovante pour accéder à des lieux privilégiés, privatifs et organiser des événements hors du commun. Que ce soit un rooftop pour un lancement de produits ou alors un jardin bucolique pour un anniversaire ou même pourquoi pas une piscine à débordement pour en être plein la vue à des journalistes. C'est l'effet waouh garanti et des convives conquis dès leur arrivée. Alors comment on les sélectionne ces lieux, comment on les trouve, parce que c'est la clé du succès de notre business. On repose sur le même modèle que Airbnb qu'aujourd'hui tout le monde connaît. On propose à des propriétaires de rentabiliser leurs propriétés, leurs actifs en les mettant à disposition le temps de quelques heures en journée ou en soirée pour organiser des événements chez eux. C'est moins contraignant qu'une location classique parce que c'est pas lié à un hébergement. Donc ils ne sont pas délogés de chez eux, il n'y a personne qui dort dans leur lit et ça leur permet quand même de profiter de l'essor de cette belle économie moderne qui est l'économie collaborative, des revenus relativement intéressants, complémentaires et très intéressants.
Eh bien voilà. Bravo.
Merci.
Et c'est très clair, hein, très bon pitch.
Merci.
Sandrine Verly, donc, qui est notre... vous mettez la casquette de coach hein, du jour, vous êtes la directrice générale déléguée de CCI France. Votre première réaction, votre première question pour Sabine Dizot de Louer Dehors.
Alors ma première question pour Sabine, c'est comment vous envisagez d'attaquer le marché français ? J'ai bien compris Grenoble, j'ai bien compris Paris, mais comment vous pensez rayonner et quels sont les spots, j'allais dire, les plus intéressants sur lesquels vous pensez pouvoir proposer votre offre ?
Alors nous, notre vision dès le départ, c'est de redonner de l'air aux citadins. Donc que ce soit des particuliers ou des professionnels, on sait que par exemple à Paris, vous avez une personne sur deux qui vit dans deux pièces ou moins. Donc ça fait vraiment des gens qui ont besoin de louer des espaces extérieurs pour organiser...
Ça tombe à point, surtout vu la période dans laquelle on est.
Dès qu'il fait beau, je peux vous...
Et puis en ce moment Les gens ont besoin de...
Il y a une vraie saisonnalité dans notre activité, mais elle s'étale de plus en plus. Donc on peut louer. Et c'est, voilà, pour répondre à votre question plus clairement, là où on veut se développer, c'est autour des grandes villes.
Moi justement, j'avais une question à vous poser. Comment ça se partage dans votre chiffre d'affaires pour le moment entre entreprises et particuliers ?
Alors ça a tendance à s'équilibrer. Le concept de base était dédié aux particuliers. Mais plus ça va et plus on commence à être connu auprès des entreprises parce que peut-être quelqu'un a été invité à l'anniversaire de son tonton, sa tata, n'importe qui dans un jardin, qu'il a passé un super moment et il est revenu au bureau, il a dit tiens, on pourrait faire ça, donc ça se rééquilibre. Je pense qu'on est à 70-30.
Et en termes de saisonnalité, est-ce que la personne qui réserve a une assurance pluie d'une certaine manière ? Je veux dire, j'annule, ça me coûte rien, vous me remboursez tout si jamais le matin je me rends compte que l'espace que j'ai prévu, je peux pas y aller parce qu'il pleut des cordes.
Alors vous avez des conditions d'annulation qui sont très claires sur notre site. Le propriétaire qui met lui son annonce, c'est lui qui détermine s'il a une politique d'annulation, si elle est flexible ou stricte. Et ça va déterminer le nombre de jours dont dispose le guest, comme on les appelle chez nous, pour annuler sa location. S'il annule, on lui propose, s'il veut, de reprogrammer une location. Comme ça, c'est sans frais.
Parce que justement, je suis allé voir sur votre site et je n'ai pas vu ce genre de dispositif. Et moi, je pense que ma grande crainte serait, je fais quoi si jamais il pleut ? Je ne vais pas aller pour le plaisir fêter l'anniversaire de l'un de mes meilleurs amis surprise et devoir payer un bout de la location parce que ce n'est pas flexible du côté du loueur.
Alors,
ce qu'on
propose justement, c'est de pouvoir reprogrammer.
Oui, mais si c'est la date du jour d'anniversaire.
On reprogramme, on fait l'anniversaire du petit frère.
Bien sûr. Mais comme disait très bien Elisabeth Assayag, en ce moment, cette période de Covid, j'imagine que pour vous, vous ne pouviez pas rêver meilleure campagne de communication, puisqu'on n'a pas foncièrement très envie en ce moment, tout ce qu'on en est, de se retrouver enfourné dans un bar ou même dans un appartement fermé. Est-ce que ça joue sur votre business en ce moment ?
Alors effectivement, dès la sortie du confinement, on a remarqué qu'il y a eu un pic d'activité sur le site et ça a été une aubaine de business, effectivement, que les gens ont avait envie de se retrouver, envie de se retrouver en extérieur, parce qu'après avoir été confinés dans des appartements, on avait vraiment envie de mettre les pieds dans l'herbe. Donc oui, c'est une effet d'aubaine.
Et bien ça s'appelle Louer dehors. Merci à vous Sabine Dissot.
Merci beaucoup.
Les développements, c'est quoi? Vous allez faire la même chose ailleurs ou vous allez rester en France?
Non, on est déjà un petit peu présent en Belgique, en Suisse, en Italie, mais alors c'est vraiment une annonce par-ci, une annonce par-là. On voudrait faire ça déjà bien installé partout en France et évidemment on peut aller vers l'Europe, voir le monde.
Et à ce moment-là, vous ferez racheter par Airbnb.
Oui, on ne les rachèterait pas nous-mêmes.
Merci à vous. Et si vous aussi, vous avez un projet, si vous avez envie d'être challengé par notre patronne ou notre patron du jour, eh bien c'est très simple. Vous pouvez envoyer votre candidature sur notre boîte mail e1-lafrancebouge@europe1.fr.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Ça va chaque jour trop vite. C'est déjà votre dernière partie d'émission de cette France bouge avec notre séquence Demain au travail. Et nous sommes toujours avec notre patronne du jour, Sandrine Véril, qui est la déléguée générale de la Chambre de
directrice
commerce.
Directrice générale déléguée.
Directrice générale déléguée. Attends, parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord depuis le début de l'émission sur le titre. J'ai repris Elisabeth tout à l'heure. Directrice générale déléguée. C'est donc toujours les femmes qui ont raison. C'est Elisabeth qui avait raison.
Et avec vous aussi, Jean-Baptiste Pacou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Neoxia. Vous dirigez 180 salariés en France et au Maroc et vous faites partie de ces entreprises qui affichent une belle croissance, qui va bien, qui recrute. Vous accompagnez les entreprises dans leur transformation numérique et à la fin de l'année dernière, même si tout va bien, vous avez envoyé des questionnaires à vos salariés pour prendre un petit peu la température interne de l'entreprise. Et à votre grande surprise, ils n'étaient pas très contents de votre positionnement par rapport à la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Et là, vous avez réagi. Qu'est-ce que vous avez fait?
Alors, on a réagi parce qu'effectivement, ce n'était pas un mécontentement, c'était plutôt un flou qui existait sur ce qu'on faisait en matière de RSE. Il y avait des initiatives qui avaient été menées depuis l'existence de Neoxia. On est une entreprise qui a 20 ans cette année. On n'a pas pu le fêter aussi bien qu'on l'aurait voulu, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et en fait, on a souhaité assez vite comprendre d'où venait ce flou, et on n'avait pas vraiment de stratégie, de vision partagée, et de vision en fait qui était clairement exposée en interne, et dont on pouvait se servir aussi en termes de communication externe. Donc on a voulu derrière interroger les néoxiens et les néoxiennes sur ce qui pouvait les intéresser, ce qui leur semblait le plus opportun de mettre en place comme action, à enclencher très rapidement sur l'année déjà 2020 et puis dans le futur.
Et l'idée, ça a été de se baser sur des associations, notamment de soutenir des projets qui justement ont du sens.
Exactement, parce qu'en fait, ils ont tout de suite, eux, mis le doigt sur la volonté de faire du mécénat de compétences, du pro bono. Donc, en fait, de prendre les expertises qu'on amène habituellement chez des organisations qui ont les moyens de les payer et de, en fait, d'apporter ce type d'expertise à des organisations qui peuvent en avoir besoin, mais qui n'ont pas les moyens de se payer, finalement, Neoxia. Et donc, on a choisi d'étudier cinq projets, cinq organisations qui avaient besoin de travailler avec une boîte comme nous. Et on en a fait sélectionner deux. Là encore, c'est les néoxiens et les néoxiennes qui les ont choisis. Et on en a sélectionné deux avec lesquels on voulait aller avancer dans le cadre d'un mécénat de compétences.
Alors, comme chaque jour, on essaye de raconter à nos auditeurs les transformations, hein, le changement, ce qui se passe dans les entreprises. Est-ce que vous avez associé vos salariés dans le choix de ces associations, puisque vous leur aviez demandé quelles étaient un peu les failles, hein, ce qui pourrait être amélioré? Est-ce que là, vous les avez associés pour choisir les associations?
Alors oui, on a associé un petit groupe, on a demandé à des volontaires de lever la main et on a créé un petit groupe de travail qui a identifié un ensemble d'associations qui nous semblaient éligibles de par leur taille, leur maturité sur le numérique et leur localisation. Et on s'est finalement mis d'accord sur cinq projets, cinq programmes parfois, parce que c'est pas seulement des projets, qui pouvaient nous intéresser. Et derrière, les néoxiennes ont voté pour se mettre d'accord sur deux projets. Un, pour accompagner l'ONG Pantera, qui est spécialisée, qui est une référence mondiale dans la protection des félins. Et l'autre, Entourage, qui est pour le coup une association française, puisque Pantera est une ONG américaine. Entourage, une association française, qui est vraiment sur la création du lien avec les personnes sans domicile fixe en particulier.
Merci beaucoup à Jean-Baptiste Pacou, directeur général de Neoxia. Sandrine Véril, vous êtes notre grand témoin depuis le début de cette émission. Donner du sens, on on parle d'apprentissage depuis le début de l'émission. S'il y a bien quelque chose que les jeunes cherchent en ce moment, c'est avoir du sens dans leur projet professionnel. Ça vous parle dans la réflexion que les entreprises doivent avoir pour les convaincre de venir chez eux?
Bien sûr, alors à la fois pour les jeunes et aussi pour les salariés. Je regardais une étude il n'y a pas très longtemps qui fait suite à la période que l'on vient de connaître. Et les salariés disent qu'on a besoin de se sentir à nouveau engagé et de retrouver du sens pour revenir après ce qu'on a vécu. Donc c'est vrai pour les salariés et c'est vrai pour les jeunes. Oui, avoir du sens parce que ce qu'ils veulent, c'est une qualité de vie.
Mais ce n'est pas toujours simple à comprendre quand on est un petit patron et qu'en ce moment, on se démène dans des moments compliqués.
C'est vrai, mais si vous voulez, pour les petits patrons justement qui aujourd'hui peinent à recruter ou hésitent, hein, parce qu'il n'y a absolument pas de visibilité sur le carnet de commandes, l'opportunité que nous offre, on y revient, hein, l'opportunité que nous offre cette mesure en faveur de l'apprentissage permet de recruter à moindre frais, vous l'avez dit, hein, notamment pour la première année, c'est quasiment 100%.
Par exemple, un responsable de la RSE, qu'on n'aurait pas recruté auparavant.
Par exemple, et dans ce cas-là, dans le cadre d'apprentissage.
Dans le cadre de l'apprentissage.
Absolument, et on a des jeunes qui pourront faire ça à merveille. Donc j'allais dire, précipitez-vous, et je voulais, parce que je ne sais pas si c'est un hasard, je suis sûre que ce n'est pas un, mais aujourd'hui, il y a un événement important, un événement digital qui s'appelle la grande rentrée de l'apprentissage, qui est porté par toute la famille des acteurs de l'apprentissage. Les OPCO, les chambres de commerce, les ministères. Et pendant 2 jours, c'est un forum ouvert aux jeunes pour qu'ils aillent s'inscrire et qu'ils aillent trouver un stage.
Eh bien voilà, tous nos jeunes savent ce qu'ils ont à faire maintenant. C'est déjà la fin de votre émission. Merci à vous Sandrine Véril, directrice générale déléguée de la Chambre de commerce et d'industrie de France.
Et on se retrouve demain, Emmanuel, à 13h pour une nouvelle France Bouge. Et le thème du jour, ce sera...
Eh bien demain, on va meubler notre maison. Le patron de Roche-Beaubois sera notre invité.
Très bonne idée. Allez, à demain, dans un instant. Christophe Ondelat.